Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie,
Henri, n'en dis pas plus, on sait, t'es tout excité parce qu'on reçoit Roche Dizem.
Forcément, beau gosse, viril, la gueule d'acteur, il a tout pour lui, c'est ça?
Non, mais il a surtout une sacrée filmographie.
Bien sûr.
Enfin, mais Téchiné, Chéreau, oui. Anne Fontaine, Boucharem.
Ouais. Est-ce qu'il a joué dans un Besson? Non, donc bon, voilà.
Zéro. C'est pas son genre, il fait des choix audacieux, lui c'est du cinéma social, engagé.
Engagé, un invité de gauche encore.
En plus, Roche Dizem, il est aussi réalisateur et scénariste.
Et allez, il sait tout faire.
Ah ouais, là il vient pour un film noir qui s'appelle Persona non grata.
Si ça continue, ça va être lui la persona non grata.
En tout cas, quand il va voir nos biscottos, ça va bien le calmer.
Mais qu'est-ce qui vous prend là?
Mais non, mais c'est vrai, c'est toujours les mêmes qui reçoivent des fleurs.
Et nous.
C'est-à-dire que vous jouez pas tout à fait dans la même catégorie, quoi. Vous voyez la différence entre Mr Bean et Bruce Willis?
Et alors,
dans le film, il est balèze, il a des chemises de gangster. Ça tombe bien parce qu'il est juste derrière vous là. Salut Rochdi.
Bonjour monsieur Z.
On adore ce que vous faites.
Non, je rigole. Et sortez de votre cachette. Ça va, hein, vous êtes tellement pleutre.
Oh, on savait bien qu'il était pas là.
Ouais, c'était pour rire.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up Émission, cet espace qui rafraîchit l'actualité grâce à son brumisateur de blagues. Les conseils de l'éducation nationale pour garder les élèves au frais ont fait rire beaucoup d'enseignants. Fermer les volets, oui, mais quels volets? Les grosses chaleurs soulignent-elles aussi les inégalités, même devant le geste le plus simple?
Pour savoir comment boire de l'eau, retrouvez notre tutoriel sur alertecanicule-plutv.gros.
Avec le succès du foot féminin, on en aurait presque oublié que la CAN a démarré vendredi, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue aussi en banlieue parisienne, ou banlieue de Lyon et de Nancy. Par exemple, Créteil ou Argenteuil organisent une Coupe d'Afrique des quartiers.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous entraînez plus les footeux de Neuilly?
Ah non, que des truffes.
La littérature peut renverser l'opinion sur un fait divers. La narration plonge souvent le lecteur dans l'inconfort moral, joue des ambiguïtés sur les personnages. Il nous retourne, quoi. Hein.
Mon client n'est pas un mauvais gars, mais il aime tuer. Alors d'où lui vient ce hobby?
Lui, il nous plonge dans l'inconfort avec ses brèves tous les jours. Bonjour Alex Vizorek.
Je ne vous cache pas qu'il y en aura tout à l'heure, mais d'abord une belle équipe à vous présenter autour de la table. Trois hommes, comme dans le film de l'invité. À 17h20, celui qui est français quand il réussit ses chroniques et espagnol quand il les rate. Donc, buenas dias, Pablo Mira.
Bonjour, c'est pas sympa. Salut Alex, salut Charline. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'aujourd'hui, pour ma chronique, je vais me mettre à nu. La mauvaise, c'est que ce sera au sens figuré.
Ah non.
Oui, je sais la déception. Je me mettrai à nu en répondant aux questions des auditeurs et des auditrices. À tout à l'heure.
Très bien. À 17h30, celui qui est de gauche quand il réussit ses chroniques et de droite quand il les rate, c'est Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour à tous. Je vais vous parler foot féminin aujourd'hui. J'ai assisté au match d'hier de la France avec des supporters dans une ambiance calme et feutrée.
Wendy Amandine Henry.
Non.
Et enfin à 17h40, celui qui est très triste quand il rate sa chronique et on ne sait pas vraiment comment il est quand il en réussit une, ça n'est jamais arrivé, c'est Thomas Croisière, bonjour.
En tout cas, je suis déjà très content d'être ici et moi je vais vous parler du film de notre invité.
Et voici celui qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes. Vous êtes...
Roche Dizem, en fait.
Oui,
yes. Ce qu'il en reste.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Roche Dizem.
Merci de m'accueillir.
Mais avec joie, vous réalisez et vous co-scénarisez avec Olivier Gorce un film intitulé Persona non grata qui sort en salle mercredi avec vous, notamment avec Nicolas Duvauchel, Raphaël Personnaz, avec Afsia Erzi ou Nadia Tereskiewicz, Anne Charrier aussi. Alors, on va raconter un petit peu le début de l'histoire et on va voir jusqu'où on peut aller dans cette narration. José et Maxime sont amis. Mais ils sont aussi associés minoritaires dans une entreprise de BTP qui va pas très très bien. Et pour sauver leurs fesses, ils décident de commettre l'irréparable, un geste radical qui les dépasse complètement, parce que ce sont deux hommes ordinaires dans le fond, qui les dépasse mais qui les lie aussi et qui va les détruire. Parce qu'arrive Moïse. Moïse, c'est vous qui l'interprétez, qui est l'exécutant de ce geste radical, on va dire, qui vient leur pourrir la vie, mais surtout rendre ce qu'ils ont fait indélébile et les poursuivre avec ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter là? pour entamer la discussion.
C'est pas mal, ça donne envie.
Je sais pas si vous avez donné envie en racontant ça, mais...
Le film sort le 17 juillet, j'ai dit.
Le film sort le 17 juillet, absolument. Non, mais c'est compliqué de le pitcher, comme on dit, parce que toute la narration du film est justement basée sur le fait qu'on découvre au fur et à mesure certaines informations qui nous font comprendre qui a fait quoi et qui est responsable de quoi.
Donc j'en ai pas trop dit, tout va
non,
bien.
Non, ça va, c'est très bien. Non.
Et c'est le remake d'un film brésilien, c'est
ouais.
ça ?
J'aime pas le mot remake.
Ah, alors j'allais vous poser la question, c'est une adaptation ?
Non, parce que remake, c'est refaire.
Oui. Mais
c'est
plagiat, on peut dire plagiat.
un hommage,
c'est la
première
question que je posais à Thomas Croisière, de spécialiste cinéma avant, j'ai dit, est-ce qu'on dirait remake ou plutôt adaptation ? Bah, c'est plutôt adaptation.
Non, je dirais librement inspiré.
Librement inspiré.
C'est ce film quand même, bon... Ouais. Faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est ce film qui m'a permis de décrire celui-là. C'est parce que j'ai vu ce film qui s'appelle O Invasor, un film de Beto Brandt qui est sorti il y a une vingtaine d'années en catimini en France, que le producteur Emmanuel Agnoret m'a amené et que j'ai vu et qui m'a fasciné. Et j'ai eu envie effectivement d'adapter cette violence-là dans notre société, parce que ça se passe au Brésil, donc c'est pas tout à fait la même violence, mais on s'en rapproche.
Oui, c'est vrai que je l'ai su après avoir vu le film, et c'était comme une évidence qu'il y avait un côté un peu violence latino-américaine, presque.
Oui, mais alors, j'ai enlevé en revanche tout ce qui était corruption, policier, etc., parce que je trouve que ça n'y en a pas chez nous, et je trouve que ça n'apportait pas de l'eau à mon moulin, mais c'est plutôt envie de me concentrer sur l'humain.
Oui.
En off, tout à l'heure, on disait, mais pourquoi gagner plus à chaque fois? Mais en fait, je trouve que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours plus. Et il y a trois classes sociales, je dirais. Il y a mon personnage qui est tout en bas de l'échelle. Il y a le personnage qu'interprète Nicolas Dubochel, qui a un peu, mais qui aimerait posséder plus. Et il y a le personnage de Raphaël Personnage, qui a beaucoup, mais qui veut encore plus. Donc, en fait, on est dans une espèce d'insatisfaction permanente qui nous pousse parfois à commettre l'irréparable, comme vous l'avez si bien dit.
Il n'y a aucun personnage, comment dire, qui...
Moral.
Ouais, qui ramène l'humanité à flot. C'est tous des salopards, tous les personnages masculins. Je trouve qu'il y a le personnage d'Anne Charrier, qui a une vraie humanité, mais tous les autres ont quelque chose de mauvais en eux.
Mais d'abord, je remercie les acteurs d'avoir accepté des rôles qui n'étaient pas valorisants, ce n'est pas des héros.
Ah, si, parce qu'ils sont bons, enfin tout le monde est bon, je trouve.
Non, non, mais
c'est des bons rôles.
Non, mais c'est parce que ça n'a pas été évident. Tous les acteurs de cette tranche d'âge, ouais, mais alors le type, il est pas... Enfin, bon, voilà. Et ils ont eu l'intelligence d'accepter. Mais en même temps, la morale, qui la fixe, qui décide où s'arrête ou où commence la morale?
Normalement, c'est France Inter, mais...
Elisabeth Lévy, un jour sur deux, normalement.
Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher justement ce qu'il y a de mauvais en nous. Moi, je dis toujours, on est bon. Quand on est, voilà, on est bon. Et la société et le parcours qu'on a à travers cette société... nous rend plus ou moins mauvais en fonction de ce qu'on a subi, de la façon dont on a été éduqué. Et plus la société est violente envers vous, et plus vous lui rendez cette violence.
Non, mais ils sont tous très mauvais à un stade où même, c'est même plus une affaire de morale.
Ils ne sont pas nécessairement très mauvais, mais ils sont embarqués dans un engrenage. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne peuvent plus sortir de ce qu'ils sont.
Ce qui est évident, c'est que ça les dépasse. Et surtout, le personnage qu'interprète Nicolas, il est dans une espèce quand même de culpabilité judéo-chrétienne qui lui fait regretter, et même, il lui fait regretter avant même que l'acte soit commis. Et donc, il essaye d'arrêter le processus, trop tard, visiblement, mais il ne s'en remettra pas. Donc, il y a quand même... Voilà, il y a... C'est là où ce n'est pas des bandits, c'est que le fait d'avoir fait ça, ils le regrettent, ils en souffrent. Et bon, voilà, j'essaie de raconter sans raconter.
C'est
mais
à lui qu'on peut s'identifier, au personnage de Nicolas Dubochel.
C'est un film tendu, en tout cas.
Sauf si vous êtes un salaud dans la vie.
Ah oui, ça, bien sûr. Auquel cas, c'est le personnage de Raphaël Personnaz ou de Moïse.
Qui m'a beaucoup touché.
Par où je disais.
Le trio fonctionne très bien, Personnaz, vous, Dubochel. Vous êtes réalisateur et acteur. Comment on choisit ces deux partenaires? Est-ce que c'est le réalisateur qui les choisit sans se poser la question de l'acteur qui va devoir jouer avec eux ou inversement?
C'est le film qui les choisit. Je dis ça très sincèrement parce que quand on écrit, évidemment, il y a des visages comme ça qui apparaissent. On dit « Ah, lui serait très bien ». Et puis, en fait, plus on avance, et à un moment, il y a une espèce d'évidence. Et le couple, Personnaz Dubochel, il est venu comme une évidence, même si j'ai pensé à d'autres acteurs. Il y a des idées qui nous traversent l'esprit. Mais en réalité, à la fin, et c'est mon cinquième film, et ça s'est toujours passé comme ça, et je pense que beaucoup de metteurs en scène vous diront la même chose, à un moment, c'est le film qui décide pour vous. Et d'ailleurs... C'est la même chose au montage, au niveau des images, c'est le film qui décide quelles images on va garder. En fait, il y a quelque chose qui vous dépasse et vous n'êtes plus vraiment maître de la situation.
Il y a une évidence.
Oui.
Qui éclate.
C'était clair, ça.
Le film s'intitule Persona non grata. Il sortira en salle le 17 juillet. Ce sera un endroit climatisé, le cinéma. Donc, s'il fait chaud, profitez-en.
En même temps, il fera peut-être un peu froid le 17 juillet. On ne sait pas.
C'est vrai, on ne sait pas. En tout cas, le film peut vous refroidir un peu. Parce que...
super film d'action. Si vous aimez ça, vraiment.
Bien sûr. Roche Dizem, bien sûr, avec notamment Nicolas Duvauchel et Raphaël Personnaz. Et Roche Dizem est avec nous. Le réalisateur, l'acteur, le co-scénariste. Il est avec nous jusqu'à 18h dans Par Jupiter.
Moi, je fais le contraire de ce que je propose aux autres. Elle avait trop froid au cœur, elle s'en est allée. Faire des ronds dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, autant dire le ciel, ce qui existait existe toujours. C'est un drame de part avec moi. Elle a des yeux comme le lac bleu, des épidermes de crasse. Ne secouez pas, ce qui a existé existe toujours, ce qui a existé existe toujours. Je suis condamné. Elle est partie, mais je la vois encore. Crever, c'est comme baiser. C'est pas parce qu'on a envie qu'il faut le faire tout de suite. Il n'y a que deux sortes d'histoires d'amour. Le garçon perd la fille. La fille perd le garçon. Je suis fixé sur mon sort. Une vague en or blanc, un nom inscrit dedans.
My Baby Left Me sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et c'est Roche Dizem qui est avec nous aujourd'hui pour son film qu'il réalise et dans lequel il joue Persona non grata qui sort en salle le 17 juillet. Et qui va nous en parler de ce film tout à l'heure?
Bien, c'est Thomas Croisière, notre grand spécialiste évidemment en cinéma.
Le seul, c'est le dernier.
Il fait la pluie et le beau temps en France pour tout ce qui est
DVD. Donc voilà, on le garde.
Guillaume Meurice que vous avez entendu et Pablo Mira.
Et l'info.
Vous lui parlez à Nicolas Sarkozy?
Ah ben je vais pas l'emmerder avec mon procès, ni avec le sien.
Le journal de presque 17h17.
On n'est pas bien là, hein?
Et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui?
On parle de l'avenir de la France.
Et on commence par les titres.
La France est face à une canicule exceptionnelle, pire qu'en 2003.
Oui, prenez donc régulièrement des nouvelles des personnes âgées de votre entourage. Assurez-vous qu'elles s'hydratent et qu'elles aient bien signé le contrat de vie âgée que vous avez laissé sur la table basse.
Pour la ministre de la Santé, oui. Agnès Buzyn, il s'agit d'un épisode sévère, voire très sévère, notamment pour les journées de jeudi et de vendredi.
Je s'y connais en épisode très sévère, Agnès Buzyn, c'est elle qui avait augmenté la CSG sur les retraites.
Et les brèves.
Une vague de brèves va également déferler sur la France cette semaine.
Ouais, c'est la loi des
dernières semaines.
Ouais,
oui. C'est donc l'événement, on ne parle que de ça.
Déjà aujourd'hui, il fait 33 degrés à Paris, jusqu'à 40 en température ressentie.
Oui, le thermomètre montrait même jusqu'à 52 en température ressentie sous les aisselles de Gérard Larcher.
Le gouvernement appelle même les employeurs à adapter les horaires.
Et ça, Radio France a bien pris la mesure en adaptant immédiatement les horaires de Guy Lagache.
Voilà. Déjà, il est resté chez lui. On le salue.
Parti si vite, hein, il n'a pas eu le temps de tout visiter la maison. Qui est déjà
on l'embrasse quand même.
Alors, si vous voulez quelques conseils de pro pour les jours à venir, il fallait écouter RMC.
Oui, chez Jean-Jacques Bourdin, ce matin, il y avait le ministre de l'écologie, François de Rugy.
Un ministre sans cravate, ce matin, que se passe-t-il ? C'est rare, hein ?
Mais vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y avait des instructions données, les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules.
Voilà, donc la seule solution pour les canicules, c'est enlever la cravate, c'est important. Merci Fanfan.
Merci. Passons à BFM TV qui a vécu un moment de grâce.
Un moment de grâce. 50 minutes de Patrick Balkany, il y a eu ce week-end. 50 minutes de grâce, comme par exemple ceci.
On va pas s'excuser quand même toute notre vie d'être né dans des familles riches.
Voilà, et c'est comme le rappelait vendredi son avocat Éric Dupond-Moretti.
Oui, c'est aussi une immense pudeur.
Balkany, c'est une immense pudeur.
Allez, à droite justement, interrogé sur un retour en politique de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth estime qu'il faut toujours laisser les portes ouvertes.
Et c'est marrant, il disait la même chose à Liliane Bettencourt, parlant de son coffre.
International, oui. Donald Trump a déclaré « Je serai meilleur ami des Iraniens s'ils renoncent au nucléaire ».
Après, je ne sais pas si c'est hyper motivant pour donner envie à un pays de se dénucléariser.
Arabie Saoudite, à présent, des Saoudiens inscrivent désormais le droit de conduire dans leur contrat de mariage.
Des Saoudiennes,
des Saoudiennes
même.
Pardon, ouais.
D'ailleurs, si les Saoudiens nous écoutent, faites bien attention, ça commence par ça, et après un jour, elles vont exiger des comptes en banque. Alors faites bien attention, les gars.
Sport, football, Coupe du monde féminine.
J'allais le dire.
Coupe du monde féminine, après la victoire étriquée de la France sur le Brésil hier, Gaëtan Tinet pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête avec le jeu.
Oui, et c'est exactement comme ça que les hommes avaient fait, et ils ont été champions du monde. Voilà, faites comme ça les filles. Hein.
Parallèlement à cette Coupe du Monde, le hamburger rose que la chaîne de restauration rapide Speedburger a lancé, a hérissé les féministes et de nombreux internautes.
Oui, et je propose pour compenser de créer par exemple le burger Olivier Giroud.
Et qui serait comment ?
On mettrait le steak à côté des deux tranches de pain.
D'accord, télévision.
Voilà. Télévision, oui, vendredi dernier c'était les 10 ans de C'est à vous, et ils ont reçu des cadeaux de tout le monde, et le plus beau je pense c'est le rap de Christophe Barbier.
Pour son 10e anniversaire, yo, c'est à vous. S'envoie en l'air. Service public, c'est la grosse teuf. Ici, le boss, c'est une meuf. Elle est blonde, mais elle est pas bête. Elle s'appelle Anne-Elisabeth.
Voilà, je la fais courte, mais je vous, quand même, vous offre le meilleur passage, celui sur Patrick Cohen.
Patrick, arrête la politique, le pouvoir, je sais que tu le niques. Les élections, tout le monde s'en tape. Mets-toi plutôt au gangsta rap.
Voilà, on attend avec impatience le featuring gangsta rap Cohen Barbier.
Voilà. Et des brèves.
Oui,
hein.
De brèves. Bac, 14 élèves ont rédigé l'épreuve du maths en breton. On espère qu'ils auront obtenu un brève sur 20.
Ah oui.
Voilà, c'est un petit jeu de mots comme ça, les gens aiment bien.
Ouais. Et la dernière,
une américaine nommée Marijuana obtient un doctorat sur l'impact des prénoms. Et c'est là qu'on se dit que Marion Maréchal aurait clairement dû faire un doctorat sur l'impact des noms de famille.
Merci Alex Vizorek.
C'est rien, c'est calou.
En compagnie de Roche Dizem, il est 17h25 à Gennevilliers. C'est là d'où vous venez, non ?
Oui.
Gennevilliers. Alors on va parler du ministère de l'Éducation qui a envoyé ses consignes pour la canicule dans les écoles. Elles ont été immédiatement raillées, ces consignes, par des enseignants pour leur peu de réalisme. Par exemple, maintenez vos élèves au frais. Alors comment faire sans volet et sans clim, à part leur parler de Parcoursup, ce qui jette tout de suite un froid. Ou encore vérifiez bien la température de vos salles de classe à l'aide de vos thermomètres. Thermomètre inexistant, heureusement. On peut encore jauger la température en fonction du nombre d'évanouissements en classe.
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
Dans les archives de l'IDA, quand même, les conseils canicules sont bien meilleurs.
Quelle année, là ?
Bonne question. Alors,
2013.
En 1956, oui. Voilà. Merci Clément Nouguet qui réalise notre émission aujourd'hui.
Et qui est alcoolique aussi. Exactement.
Roche disait, donc les consignes de l'éducation nationale pour la canicule, tenir les élèves au frais, etc. Il y a plein d'enseignants, notamment hors des centres-villes, qui disent, mais vous n'êtes pas réaliste les gars, on n'a ni volet, ni endroit frais, le plafond s'écroule. Donc déjà, bon, ça fait un peu courant d'air, vous allez me dire. Mais ces consignes qui ont l'air valables pour Henri IV ou Louis le Grand, mais pas ailleurs, Est-ce que la canicule, ça souligne aussi la chaleur ou ce genre de choses, les inégalités?
Ça dit, vous ne croyez pas si bien dire, mais j'ai tourné à Henri IV, il y a une grande partie qui est en préfabriqué.
Ah bon?
Ouais. Oui. Alors c'est un très très beau lycée, mais alors toute la partie intérieure est en préfabriqué, qui est censée être provisoire. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est depuis.
Ouais. Mais, donc eux aussi sont sujets.
Bon, c'était une parenthèse, mais vous savez, il y a les écoles de centre-ville qui sont souvent des vieilles écoles très jolies, etc. Qui sont pas forcément très bien équipées en termes d'isolation, pardon. Ouais. Et puis il y a effectivement ces écoles qui se retrouvent après dans les périphéries, pardon. Ouais. Et vous l'avez très bien dit, quoi. Effectivement, il y a aucun moyen qui est mis en œuvre. Mmh. Et puis même pour les profs, c'est difficile, quoi. C'est quand vous avez une classe de jeunes adolescents en ce quand ils sont pas en sort, c'est compliqué. Mais bon, voilà, ouais. De toute façon, ça traduit aussi le manque de moyens aujourd'hui qui est mis, notamment dans l'éducation nationale. Mais il faut penser même au système pénitentiaire, tous ces endroits comme ça, même peut-être certaines administrations. Mm-hmm. On n'est pas prêt. De toute façon, tous les ans, on est surpris par la canicule. On est toujours en réaction. On se dit, oh là là, il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Et ça va revenir l'année prochaine. Et puis en plus, ça va être de pire en pire. Ouais. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait prendre des mesures définitive, je suppose. Mm-hmm. Ça serait intelligent, non?
Déménager en Bretagne.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis content parce qu'annuellement, ça alimente bien les statuts Facebook, les tweets, etc. C'est devenu passionnant, là, ces derniers jours. Je ne sais pas si vous les suivez un peu. Je sais que Pablo, vous faites votre fonds de commerce, mais...
Mais à tel point que les lycéens de Seine-Saint-Denis, ils ont publié une tribune dans Le Monde vendredi, suite à un atelier d'écriture où ils ont tous écrit qu'ils ont passé le bac dans des conditions vraiment pas adaptées, quoi. Les préfabriqués, mais donc apparemment même combat avec Henri IV s'il y a des lycées qui sont en réfection.
Bon, ils vont me remercier, Henri.
Envoyez vos dons à Henri IV.
Avec des
bruits. Parce que je voudrais mettre mon fils à Henri IV, c'est pas vrai.
Avec des bruits de marteau-piqueur toute la journée, deux chiottes pour 800 filles, etc. Et eux disent que ça n'existerait pas en centre-ville et se sentent presque, ils expliquent dans leur tribune, un peu sous-citoyens dans ces périphéries-là. À une autre époque, vous, quand vous étiez jeune, votre mère, elle a galéré pour vous inscrire au lycée.
Alors, avant, c'était plus grave. Mais alors là, c'est carrément. C'était pas galéré, c'était porte-close. Alors que j'étais un élève qui avait la moyenne, juste, ouais. J'avais la moyenne, mais à cette époque-là, on disait, mais ah non, on n'a plus de place.
Pourquoi porte-close? Vous avez failli finir à l'armée, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de place dans les écoles.
La réponse, elle était claire et limpide, c'était, ah ben non, on n'a plus de place. Donc, vous avez 16-17 ans, et donc, à partir de 16 ans, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on estimait que vous pouviez être dans la vie active, et voilà, c'était aussi simple que ça. D'abord, il y avait quand même tout un système qui était mis en œuvre pour les enfants d'immigrés, pour éviter, je dis ça, c'est pas une théorie du complot, mais on faisait quand même tout en sorte pour éviter qu'ils aillent en secondaire. Et moi, je me souviens que mes parents étaient convoqués, c'était mon cas et puis le cas de mes frères et sœurs et de mes amis, qu'ils expliquaient à nos parents, qu'ils les considéraient vraiment comme des illettrés, et ils leur disaient, vous savez, s'il va pas en seconde, il peut aller tout de suite en CAP, et dans 3 ans, il a un métier et il gagne de l'argent. Et nos parents, évidemment, ils voulaient le meilleur pour nous, ils disaient, non, mais il a la moyenne, etc. Donc, mais c'était quand même... Je ne sais pas si c'était une missive lancée par l'éducation nationale, mais il y avait quand même voilà,
une volonté orientation. Une orientation.
Et d'ailleurs, du coup, ça me permet d'enchaîner. Dans toutes les grandes écoles aujourd'hui, 95% des élèves viennent de milieux favorisés. Mm-hmm. Donc, on se tient une balle dans le pied, puisqu'on empêche justement ces élèves que vous avez évoqués, qui viennent d'Épinay-sur-Seine, ça, je crois.
Oui, exactement. Enfin,
Il y a toujours des bons éléments, et ben, voilà, ils n'auront pas accès à ces grandes écoles, alors qu'on est censé y parvenir au vu de ses résultats, normalement.
Alors, quand on lit la tribune, on a très envie de les mettre dans un très très bon lycée. Mmh. C'est certain. Roche Dizem avec nous. Et là, il est l'heure de passer la parole à notre Jésus, à nous, notre faiseur de miracles, puisque France Inter est la radio numéro 1. Nous sommes numéro 1 malgré sa présence à l'antenne, hein, ça c'est miraculeux, c'est vous Pablo Mira. Mon petit ange trapu, aujourd'hui vous avez décidé de répondre aux questions de celles et ceux qui nous écoutent.
Ouais ma louloute, les auditeurs se posent beaucoup de questions, moi je me pose beaucoup de réponses, c'est donc l'heure de questions-réponses.
Bien sorti, oh. Bien, allez, très beau.
Très beau jingle. Allez, on attaque, premier message
d'auditeur. Bonjour Jean-Charles de Grenoble, quelle heure est-il?
17h31, bam, j'avais prévenu que je répondrais à toutes les questions tabou. C'est parti, suivante.
Hello Pablo, c'est Maxence de Rennes. À quoi est dû ce dérèglement climatique?
Et qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme geste utile pour pas souffrir de la canicule?
Ouais, et ben écoute, la réponse elle est simple, ce sont les animaux qui provoquent le dérèglement climatique, ils émettent trop de CO2, c'est pour ça qu'il faut les abattre massivement. Et oui, un abattoir qui ferme, c'est un ours polaire qu'on tue. Quant au geste à faire pour ne pas souffrir de la canicule, c'est très simple, il suffit de frauder le fisc pendant 35 ans afin de s'acheter un luxueux riad entièrement climatisé au Maroc. C'est simple. Prochain message.
Oui, bonjour, Myriam de Toulon. Moi, j'ai adoré la qualification de l'équipe de France hier contre le Brésil. Mais je voulais savoir, est-ce que toi aussi, tu suis un peu la Coupe du Monde féminine de foot?
Excellent, du foot féminin. Et question suivante.
Allez, je crois que c'est Anne-Charlotte. Pablo, j'aimerais que tu sois là plus souvent, 2-3 fois par semaine, genre. Par contre, si Thomas Croisière pouvait venir que 2-3 fois par an, ce serait top. Et rassure-moi, tu seras encore dans l'équipe de Par Jupiter la saison prochaine?
Oui, bah écoute, pour être franc, c'est en discussion. J'ai évoqué la saison prochaine ce matin même avec Laurence Bloch, la boss de France Inter. Elle m'a demandé qui j'étais, donc voilà, bon, ça avance doucement, mais ça avance. Allez, une autre question sur ma personne de la part de Tard, de Bastia. On écoute mon Tard.
Dis-moi, petit ange trapu, c'est pas un peu dégradant d'être la caution sexy de Radio France?
Oui, bah écoute, je vais te dire, moi j'ai toujours été conscient d'avoir été engagé sur France Inter pour mon physique, et puis pour fidéliser un public féminin, c'est comme ça, c'est le lot de tous les grands sex-symboles, que ce soit Brad Pitt au cinéma ou Jean Lassalle chez les Bouquetins. Question suivante, question politique.
Bonjour Eric de Dijon, pour qui tu penses voter en 2022?
The question. Écoute Eric, mon petit amateur de moutarde, mon avis c'est qu'aujourd'hui la France a besoin d'un président qui n'hésite pas à appliquer des recettes qui fonctionnent ailleurs, qui n'hésite pas à copier ses camarades sans une once d'état d'âme. Donc la France a besoin de...
Gad Elmaleh.
Question suivante, qui d'autre?
Coucou Pablo, c'est Maxime de Paris. Quel est ton humoriste préféré à France Inter?
Oh, sans hésiter, le styliste d'Alex Vizorek. Ou son barbier, aujourd'hui. Next.
Bonjour Pablo, Steven de Chartres. Est-ce que tu penses que la mobilisation des gilets jaunes devrait s'arrêter?
Écoute, absolument. Très franchement, ça devient ridicule. Ils sont à combien, là, chaque samedi en mobilisation? Quoi, 10 000? 10 000 à peu près. Moi, je dis qu'une manifestation doit s'arrêter au moment où elle atteint le nombre de spectateurs d'un film des Frères Dardenne. Je crois que Steven a une autre question sur ce sujet-là.
Oui, Pablo, toi qui es intellectuellement un être supérieur, ce serait quoi la solution pour sortir de cette crise?
Facile, de la Javel. On asperge les gilets jaunes de Javel, leurs gilets deviennent blancs, on crée comme ça des milliers d'emplois d'infirmiers hein, pour faire souffler les urgences. La solution à la crise sociale tient en 3 lettres seulement, détergent. Oui, ce sont des lettres, A, B, C, D, détergent. Renseignez-vous, question suivante.
C'est brillant. Salut Pablo, je m'appelle Terry et je serais curieux de connaître ton idéal féminin.
Ouais, eh ben écoute, franchement, ce serait une femme qui aurait le visage de Charline, je dis, mais la poitrine de Gérard Larcher, donc c'est Constance. On a encore le temps de prendre quelqu'un. Ouais.
Un dernier,
allez, un dernier, c'est Oriane de Toulon.
Salut Pablo, dis-moi, quelle est ta position sur le burkini? Pour ou contre?
Écoute, moi, par principe, tu sais, je suis contre tout ce qui est différent d'un bikini. Je trouve ça trop dangereux que chaque communauté développe son propre maillot de bain. Je vous le raconte, hein, j'ai une amie portugaise qui a développé un murkini. C'est un bikini fait entièrement de ciment. Elle est morte noyée. Donc, pour moi, c'est non. Allez, voilà, cette session de questions-réponses est maintenant terminée, je crois. En région, on me dit qu'on a le temps pour une dernière question. Et comme j'aime bien mon public, je ne serai rien sans eux. On prend la dernière question. C'est parti.
Salut Pablo, c'est Julie de Bordeaux.
Ouais.
En tant que fan de Guillaume Meurice...
Oh non, malheureusement, en régie, on me dit qu'il faut rendre l'antenne chez Ballot.
Effectivement.
Hein, les aléas du direct. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée. Si Charline n'a pas été retrouvée suicidée de 3 balles dans le dos par Thierry Ardisson et Laurent Ruquier. Allez, salut.
Merci Pablo Mira, merci. On se retrouvera vendredi pour une émission avec toute l'équipe. Nick Waterhouse sur France Inter. Coming on strong now. Waterhouse, donc I Feel a New Year's Coming On. Vous écoutez France Inter par Jupiter, c'est Roche Dizem qui nous accompagne jusqu'à 18h. Son film, qui s'intitule Persona non grata, sort en salle le 17 juillet. Un film dans lequel il joue aussi, Roche Dizem, aux côtés de Nicolas Duvauchel, Raphaël Personnaz, Anne Charrier, Sarah Pasquier ou Fred Ulysse, entre autres. Et Thomas Croisière va nous en parler dans un instant. Avant ça, on va parler un petit peu football, mais aussi Guillaume Meurice.
Mais oui, je vais vous parler foot féminin aujourd'hui, ce que Finkielkraut appelle les filles, elles ont mis des chartes. Voilà. Ce que les journalistes de Jean-Pierre Pardon appellent du rouge à lèvres, un balai de jambes qui leur rappelle le ménage, un tirage de maillot qui leur rappelle leur épilation. Voilà, le foot féminin chez Jean-Pierre Pardon. Alors, foot féminin parce que l'équipe de France jouait hier soir et elle a gagné. Alors, gagner, c'est quand en fait c'est une équipe qui marque plus de buts que... Ouais, vous pouvez pas savoir, c'est pas la coutume en Belgique. Bon, moi je suis allé voir le match dans un bar où étaient réunis les supportrices et les supporters. Au départ, je vais vous dire, je suis allé dans la fan zone au Hall, mais il y avait une grande tente Qatar Airways. Et je me suis dit, c'est bizarre de financer à la fois le terrorisme et le football. Olivier Giroud, il a une barbe, d'accord, mais vu comment il vise, il ferait quand même moins de morts dans les attentats. Donc j'ai préféré plutôt un bar vers Ménilmontant. Et vraiment, on sent la différence entre le foot féminin et le foot masculin, notamment chez les supporters.
Je vais dire un truc déjà à la radio, j'aime pas. Ça m'emmerde. Pour moi, la radio, c'est juste une bande de trop du cul, quoi. Vous êtes des merdes, en fait, quoi. Nous, on soutient une team. Nous, on fait un truc, nous. Nous, on soutient des choses. Nous, on soutient. On n'aime pas les espèces de gens de France Inter.
Ah, un auditeur de Sud Radio, donc a priori, bon bah ça arrive, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Charline, elle les chauffe dans le Parisien, puis moi je les récupère sur le terrain. C'est ça aussi la force du collectif. En cas de souci pour la diplomatie, on envoie Alex faire 2-3 piges à droite à gauche, et hop, c'est reparti pour une saison. Ça fait 5 ans qu'on marche comme ça, on continue. Alors, ceci dit, j'avais quand même des questions à lui poser. Est-ce qu'il préfère le foot féminin ou le foot masculin?
Ah, évidemment, je préfère le foot masculin. Ah. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le drapeau. Tu vois, c'est la France qui joue, ça c'est beau quoi. Et c'est, dès que ça sera la France qui jouera, ça sera beau. Tu sais quoi, moi je viens de Guingamp. À Guingamp, on a. Tu sais quoi?
On dit que les Bretons picolent beaucoup.
Ah bah ça ouais, c'est pas une légende.
Ouais, c'est pas une légende, ouais, c'est pas ce qu'il me semble.
On aime bien picoler nous.
Oui, évidemment, parce que pour un supporter de foot, je rappelle qu'au-dessus de l'amour du sport et du maillot, il y a l'amour de la bière. Hein, ça c'est la base. Hein, au-delà de ce qui nous divise, il y a l'alcool. C'est le message universel et la principale preuve de l'unité de l'espèce humaine. Jean Lassalle devrait être bientôt classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à ce titre, hein, puisqu'il conserve dans son organisme plus de traces d'alcool que n'importe quelle vinothèque du pays, notre Jeannot. Et il y a aussi dans le foot masculin et le monde des supporters une tradition d'insultes homophobes. Alors, est-ce que c'est pareil dans le foot féminin?
Mais attends, mais t'as que ça à foutre ou quoi? T'as que ça à foutre? C'est vous qui êtes des merdes, enfin franchement, vous êtes des merdes, quoi.
Et sinon, ma question, pour répondre à ma question.
J'en ai rien à foutre de ta question. Ta question, je te la fous au cul.
Alors, on s'approche. C'est vrai que ça tourne quand même pas mal autour de l'anus, hein, dans les insultes. Et c'est vraiment un endroit qui fascine l'anus. D'ailleurs, Charline me disait tout à l'heure que c'est avec ça que les auditeurs de Sud Radio écoutent leurs émissions. Mais on va pas là, on va pas en rajouter. On va encore être obligé d'envoyer Alex calmer le jeu. Le planning est complet, on continue. Alors, le plus simple pour insulter en toute tranquillité, c'est de prendre tout simplement un cours.
Ah non, alors on s'est fait un cours d'insultes non genrées la dernière fois.
Voilà, d'accord.
Alors, on a dit pas salope, machin, mais on a fait des insultes non genrées, genre.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
Étron ou connasse, parce que ça peut être connard et connasse.
Ouais, d'accord.
Ou alors connasse.
Ou alors quoi?
Fille de connard, ça marche.
Fille de connard, ça marche?
Ouais, parce que c'est des lesbiennes qui nous ont expliqué que ça. Quitte à insulter un de ses parents, on insulte son père, pas sa mère.
Ah, ouais, c'est technique, hein. C'est putain de technique, l'insulte de supporters de foot non genrée. Fille de connard, ça passerait. C'est bizarre parce que ce soit un couple de lesbiennes qui leur a expliqué ça, parce que si elles ont un enfant, ça deviendrait fille de connasse. Et on retombe dans le cas de l'insulte non validée. C'est hyper technique, enfin, je me lance pas là-dedans. Nous, à France Inter, en plus, on est bien pensant. On signe un contrat de bien-pensance tous les ans. On doit dormir avec un pyjama Thomas Legrand. Moi, j'ai une housse de couette Sophia Aram, par exemple, parce que je fais un petit peu de zèle. Donc, je prends pas de risque. Pour pas prendre de risque, voilà un chant de supportrice ultra violent, mais safe.
On n'est pas
des Nantais!
On n'est pas
des Nantais! On n'est pas des Nantais!
Ouais, donc vous n'êtes pas des Nantais, a priori?
Nous, la ville de Nantes, ça nous plaît pas trop.
Vous aimez plutôt quelle ville, alors, du coup?
Paris, parce qu'il y a des bus à deux chiffres.
Ok, ok, bah voilà, il y a des bus à deux chiffres. Alors c'est un petit peu nantophobe, je suis désolé. Bon, on va avoir des problèmes avec Guingamp déjà, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai qu'on est un peu paumé niveau liberté d'expression. Je me sens un peu comme Pablo Mira au salon du déodorant. Hein. Alors, ceci dit, ça, tout ça, c'était avant que l'arbitre refuse un but à une Française pour une charge irrégulière sur la gardienne brésilienne. Parce qu'après ça, les Brésiliennes, c'était plutôt quoi ?
C'est toutes des putes. C'est toutes des putes et surtout l'arbitre qui a pas voulu accorder le but.
Donc l'arbitre, c'est une pute.
L'arbitre, c'est une pute.
Voilà, là, je dirais qu'on retrouve nos fondamentaux, hein, ce qui nous unit, ce qui fait que nous sommes la nation française. Allez, pour conclure, retournons voir la même jeune fille, cette fois-ci, après la victoire de la France.
Est-ce que l'arbitre, c'est toujours une pute ? On s'est quitté comme ça tout à l'heure.
À mon avis, c'est un homme. C'est donc un PD.
Voilà, donc ça change pas grand-chose, finalement. Et c'est peut-être ça qui montre que les choses avancent, quoi. On peut dire les mêmes conneries, que ce soit en regardant du foot féminin ou du foot masculin. Et si vous en avez marre d'entendre des conneries, vous pouvez toujours écouter cette formidable radio d'extrême droite, de radio pluraliste, pardon, excusez-moi, qui s'appelle Sud Radio.
Merci Guillaume Meurice. Vous écoutez France Inter, la radio bien pensante, et comme nous sommes bien pensants, nous allons parler du foot vivre ensemble avec Roche Dizem. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré vendredi, eh bien, les banlieues de Paris, de Lyon, de Nancy organisent la Coupe d'Afrique des quartiers. Elle permet aux jeunes de ces quartiers de représenter leur pays d'origine dans un tournoi, prétexte à faire la fête autour du foot, à vivre ensemble et puis à se connaître, visiblement, parce que le foot crée du lien et il ne sert pas qu'à faire émerger des ambassadeurs de chaque pays.
Voyons sérieux, monsieur Didier. Vous connaissez comme moi l'importance même de l'image d'une nation. Qui a fait plus pour l'image de l'Argentine que Diego Armando Maradona? Qui a fait plus pour l'image du Brésil que Edison Arantes do Nascimento di Pelé? Qui a fait plus pour l'image de la Colombie que...
Shakira.
Voilà même un grand joueur.
Ah non, c'est une chanteuse.
Ah, fous-moi la paix.
Thomas Gijol dans Le Crocodile du Botswanga, le film de Fabrice Eboué et Lionel Stecchetti. Donc la Coupe d'Afrique des quartiers a lieu en ce moment dans certainement lieux. On peut assister à un Congo-Tunisie, un Maroc-Côte d'Ivoire où chaque habitant représente son pays d'origine. Ça déclenche quelle réflexion chez vous, ça ? Ça a l'air d'être une
Tout ce qui réunit, alors bon, bah là c'est le sport, c'est très bien, mais tout ce qui réunit est forcément bienvenu. Mm-hmm. Vous savez, le problème des quartiers, c'est comme dans les zones rurales, on s'ennuie terriblement. C'est surtout ça le problème. C'est ce qui peut déclencher parfois des dérives. À partir du moment où on organise ce genre d'événement, bon, le foot, c'est ce qu'il y a de plus populaire, mais ça peut être aussi un événement culturel ou autre qui permet de réunir et de se confronter avec des règles. Non, c'est bienvenu. Je trouve que c'est une très bonne idée. Puis je pense que c'est une idée en plus qui va prendre de l'ampleur. Parce que je crois que c'est la toute première, hein, je ne dis pas une bêtise.
Oui.
En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Mm-hmm. Et je suis sûr que ça va prendre de l'ampleur. Et puis je trouve que c'est une belle initiative.
La CAN, vous allez la regarder ? Vous êtes fan de foot ?
En tant que d'origine marocaine, ouais, bien sûr. Ouais.
Est-ce que les Lions de l'Atlas ont
on a gagné
chance.
Hier d'ailleurs.
Il y a une belle équipe côté Lions de l'Atlas.
Ouais. Mais l'Algérie aussi a une très très belle équipe. Là, je les ai regardés hier. Une super équipe. Mais bon, je pense que se déroulant en Égypte, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je connais déjà le nom du gagnant.
Ah bon, c'est vrai ?
Ouais. Ah, non, en plus, ils sont bons, les Égyptiens, malgré tout. Mais c'est souvent le pays qui organise.
Il est déjà mauvais perdant, c'est ça qui est
fou. Non, comme Alex, hein.
Oui, il est belge. Ça me fait plaisir.
Oui, c'est vrai.
Quoi qu'il arrive, il y aura un drapeau algérien, de toute façon, sur les Champs-Élysées, le soir. Là.
Quoi qu'il arrive.
C'est vrai. Et les filles, est-ce que vous regardez le football féminin ? Est-ce que vous avez regardé un petit peu France-Brésil ?
J'ai une théorie, mais je vais pas me faire. Voilà, je sais pas si je dois lire ça.
Bon, c'est le moment, là, je pense qu'on est en fin de saison.
J'appelle un peu au CSA, je
vais faire. Attention, on dira un trick pire que vous après, et on aura oublié.
J'ai une théorie, mais voilà, peut-être que je me trompe. J'ai le sentiment tout est super.
J'adore les femmes, j'en ai à la maison, il n'y a pas de problème.
Je pense que les cages de but sont un peu trop grandes.
Oh, c'est hyper sexiste.
Non, mais vous
avez raison, elle pose elle-même les questions. C'est
parce
vrai.
Que, vous, regarde, par exemple, c'est pas sexiste. Les haies aux 110 mètres, elles sont un peu moins hautes pour les femmes. Le lancement du poids. Le poids est un peu moins lourd. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un tir cadré en lucarne, il y a but.
Heureusement qu'elles sont nulles techniquement, elles n'arrivent jamais à tirer en lucarne.
Non, mais moi, je peux dire un truc pire que vous. Les Thaïlandais ont le même problème. C'est... Allez hop, comme ça j'ai dit pire que vous derrière. Allez, hop.
Voilà, je pense que c'est une théorie qui vaut. Peut-être que je dis une grosse connerie.
Non, non, mais on soutient un certain autour de la table.
Mais cela dit, j'en ai parlé avec quelqu'un qui travaille à la FIFA, donc je ne vais pas citer, qui m'a dit on l'a évoqué et on s'est pris tous les mouvements féministes sur le dos. Mais je pense que ce n'est pas grand-chose, c'est 10 cm de chaque côté et 5 cm en hauteur, peut-être, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose à réadapter, et même le temps, on m'a dit, les 2x45, c'est... Mais sinon, c'est super, je trouve ça super.
Au tennis, ça, par exemple, oui. Roland-Garros, ça se joue en 2-7 gagnants, et pas en 3-7 gagnants, c'est certain. Chez les hommes, dans les équipes de foot, les gardiens sont systématiquement des grands gardiens ?
Souvent. Ouais. C'est des athlètes, aujourd'hui. Il y a eu une époque où ils étaient de taille... Mais maintenant, aujourd'hui, ils font 1m90 et 90 kilos de muscles.
Vous étiez gardien, vous ? Parce que vous êtes grand, non ?
Non,
c'était quoi votre poste ?
1m90, 90 kilos de muscles. Mais parce que tu ne savais pas jouer au foot. Non, mais c'est vrai. Au foot dans les buts, c'était toujours comme ça que ça se passait.
C'est où ça? J'étais gardien.
Vous êtes toi dans les buts. C'est comme ça que ça se passait.
Moi, je sais, le film que vous réalisez s'appelle Persona non grata. Il sort en salle le 17 juillet. Thomas Croisière, je vous laisse le dossier.
Est-ce que ce monde est sérieux?
Est-ce que ce monde est sérieux? S'interroge Francis Cabrel, que l'on entend en ouverture de votre film Roche Dizem. De ma chambre noire, je n'en sais rien, mais de la salle obscure où l'on pourra voir votre film noir qui jamais ne sombre, vous apparaîtrez en auteur, réalisateur, acteur lumineux. L'occasion de vous proposer un top 3 des Pelliculae Gratae de Persona non grata, ou pour ceux qui n'ont pas fait de latin et ont fini saltimbanque sur France Inter, un top 3 des films bienvenus dans Personne pas bienvenue. Numéro 3. La musique de Carter Burwell, compositeur attitré des frères Cohen pour le 40e et dernier film de Sidney Lumet, réalisateur un peu oublié malgré une liste de chefs-d'œuvre plus longue que le sexe de Rocco Siffredi. 12 hommes en colère, Serpico, Network et ici 7h58 ce samedi-là, film que vous citez en référent Roche dit et dont le titre anglais est Before the Devil Knows You're Dead, le traducteur ayant sans doute fait allemand première langue. J'imagine que c'est aussi à lui que l'on doit My Darling Clementine, traduit en La Poursuite Infernale, et The Hangover en Very Bad Trip, sommet de la traduction pataphysicienne, aussi dite du rien à branler, Nothing to Wank. 758 That Saturday, donc, met en scène Philip Seymour Hoffman et Ethan Hawke, deux associés dans le crime qui, comme vos deux héros, sombrent dans une spirale infernale où ils bafoueront un à un les 10 commandements après avoir raté le casse de la bijouterie de leurs parents. Vos José et Maxime sont eux aussi victimes de leur cupidité et nous font osciller entre tension et espoir dans un monde sans Dieu, ni loi, ni prophète, même si votre personnage s'y prénomme Moïse, tout en questionnant notre propre médiocrité. Cette médiocrité qui fait qu'au final, ce bijou de film noir a fait 60 fois moins d'entrées que les Bronzés 3, nous prouvant ainsi que ce monde n'est définitivement pas sérieux. Big up à toi, Francis. Numéro 2. La terrifiante bande originale de Cape Fear, ou en français, Les nerfs à vif, selon le même traducteur qui a aussi dû faire espagnol, deuxième langue. Musique de Bernard Herrmann, le compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock, dont Martin Scorsese a réutilisé la partition originale pour son remake. Et ce n'est pas parce que votre film est également un remake qu'il m'y a fait penser, mais parce que votre inquiétant Moïse m'a rappelé Max Cady, ce voyou sorti de prison, interprété par Robert De Niro, qui veut se venger de son avocat Nick Nolte et va pourrir sa vie de l'intérieur, allant même jusqu'à vamper sa fille, jouée par la pulpeuse Juliette Lewis, dont la moue arrogante, comme l'appareil dentaire, hante encore mes rêves maudits. Robert De Niro, tout en tatouage et en citation biblique, incarne parfaitement la figure de l'ennemi intérieur qui s'épanouit en détruisant progressivement son hôte, que l'on retrouve dans de grands films comme La Nuit du Chasseur ou plus proche de nous, le palmé Parasite. Parasite qui se développe également à la radio et répond généralement au nom de Pablo Mira. Numéro 1. Claude Bolling et son piano désaccordé pour Borsellino de Jacques Deray, qui n'est pas le frère d'Odile. En voyant les belles gueules de Raphaël Personnaz et Nicolas Duvauchel, comment ne pas être nostalgique de François Capella et Roxy Freddy, ces deux Rastignacs qui veulent conquérir Marseille. Borsellino nous rappelle que des producteurs burnés comme les vôtres ou comme Alain Delon ont su faire en France des films de genre populaires avec des acteurs à tronche, comme vous le faites d'ailleurs en choisissant Gilles Cohen, Frédéric Pierrot ou encore Arsène Mosca, le Peter Lorre français. Et lorsque votre personnage, tout en aphorisme, déclare « La vie est la sœur du hasard », je n'ai pu m'empêcher de penser à Bébel expirant sur « Rock, Rock, la chance, tu vois, ça n'existe pas ». Cette chance que vous évoquez en permanence pour justifier votre carrière riche de plus de 80 rôles et 5 réalisations, alors que c'est surtout beaucoup de travail et de passion. Enfin, votre film est également du bâtiment. Je n'entends pas par là qu'il est gay, mais que l'action se déroule dans le milieu des travaux publics et de ses compromissions comme Main basse sur la ville de Francesco Rosi, primé à Venise en 1963 et disponible jusqu'au 31 août sur Arte TV. Il dure 1h35, soit le temps cumulé de mes chroniques cette saison. Entre mon intégrale en podcast et Revoir le Lion d'Or, j'ai fait mon choix et j'espère qu'à la différence de José et Max, vous ferez le bon. Vive le cinéma et à la saison prochaine, si je suis toujours persona grata.
Mais bien sûr, merci beaucoup. Super. Thomas Croisière, merci pour beaucoup. Cette lecture croisée du film de Roche Dizem. C'est une réaction
j'ai rien à ajouter. Non, mais vraiment, d'abord les références, super, vraiment, merci quoi.
Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir été inspirant.
Merci. Vous êtes donc reconduit la saison prochaine, c'est la bonne nouvelle.
Il faut.
Alors on va poursuivre sur ce thème. Le fait divers dérange mais fascine. Et il y a un ouvrage qui relate les changements d'opinion des lecteurs, et donc aussi, pourquoi pas, des spectateurs, à travers les récits d'affaires criminelles. Ces faits divers racontés par la littérature, ou finalement le cinéma, qui s'amuse à placer le lecteur ou le spectateur dans ce qu'on appelle des situations inconfortables, jusqu'à parfois changer d'avis sur les personnages. Voilà pourquoi on en tire autant de plaisir.
Vous aimez ça, les histoires de crimes, hein? Les cadavres de femmes qui sanglotent, tant sadiques. Et vous croyez que nous, ici, à l'ORTF, on est là pour alimenter vos goûts pervers? Eh? Vous croyez qu'on est là pour exciter vos sentiments morbides? Non, mais ça va pas la tête! Bande de névropathes! Il y a des stations privées pour ça! Nous, ici, on est là pour vous éduquer, pour vous élever!
Jean-Yann, qui venait de quitter RTL, qui arrive sur France Inter en 69, avec une émission intitulée « Eh ben, mon cher et vieux pays, nous voici à nouveau face à face ». Alors, c'est un professeur de littérature comparée, qui s'appelle Frédéric Toudoir, qui publie « Le fait divers et ses fictions ». Libé en a fait un papier pour nous expliquer que le fait divers dans la narration, eh bien l'auteur s'amusait à nous retourner, évidemment, jouer de l'ambiguïté et de l'inconfort. Vous avez une forme de fascination pour les faits divers, les tribunaux, etc. Vous l'expliquez comment? Est-ce que vous prenez autant de plaisir à les réaliser aussi?
Parce que les meilleurs scénarios, c'est ceux qui apparaissent dans la vie, dans l'existence, la vraie. Mm-hmm. Mon deuxième film, c'était sur l'affaire Omar Haddad.
Ouais.
C'est passionnant de se plonger là-dedans. D'abord, de voir comment l'affaire a été traitée médiatiquement. Mm-hmm. Et souvent, il y a toujours un des éléments qui n'est pas humanisé. Par exemple, dans l'affaire Omar Haddad, la victime... Peu de gens savent à quoi elle ressemble. C'est souvent, par exemple, aujourd'hui, il y a les affaires très graves, comme l'affaire Lelandais ou ce type qui a étranglé sa femme.
De Ligonnès aussi.
Voilà. On essaie un peu plus mystérieux déjà.
Ou Jonathan
Mais
Daval,
en fait, ils sont pas humanisés dans le traitement qu'on en fait d'un point de vue médiatique. Et le cinéma leur redonne cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de l'empathie, parfois, une de mes références, par exemple, c'est quand j'ai écrit l'affaire Haddad, c'était de sang-froid de Capote. Et pareil, c'est coupable, ils avaient une humanité. Et c'est vrai que l'esprit critique qu'on peut avoir naturellement, il s'en trouve un peu parasité, en tout cas. Mais c'est important de le conserver.
Surtout qu'on garde, on entre dans l'intimité des personnages, notamment vos deux personnages joués par Nicolas Duvauchel et Raphaël Personnaz. On passe beaucoup de temps avec eux. C'est ça qui nous embrouille parfois.
C'est notre façon un peu de vous manipuler. C'est vrai. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, même la pire des crapules est un être humain. Donc, qu'est-ce qui a fait que lui a basculé dans l'horreur et que nous, on ne franchit pas cette frontière? Et souvent, la frontière, elle est beaucoup plus étroite qu'on peut l'imaginer.
Y compris pour votre personnage de Moïse, Roche Dizem, dans Persona non grata, qui sort donc en salle le 17 juillet. Roche Dizem avec nous, on aimerait bien jouer avec vous si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, il découvre le sujet, le thème, le rôle, comme ça. On voulait faire un sketch sur les laboratoires dont on a parlé la semaine dernière, où on teste d'horribles choses sur les animaux, et on s'est dit, si on plaçait ça dans un film noir, vous êtes l'enquêteur, il y a eu un meurtre dans ce laboratoire. Vous allez voir que c'est très sérieux.
C'est un comédien palmé, hein, attention.
Guillaume est le chef du laboratoire, et Charline est votre assistante. Roche Dizem, on se rend sur le lieu du crime.
Mais il manquait plus que l'inspecteur Gadget.
Voilà, commissaire, s'il vous plaît.
Et vous cherchez quoi, commissaire Gadget ?
On cherche le corps.
Dans mon labo ?
Commissaire, j'ai trouvé !
C'est mon adjointe, elle est très très forte.
Et elle a trouvé quoi, Julie Lescaut ?
Vous allez pas me croire ! Vous voyez la vache, là ?
Ah, oui.
Vous voyez le hublot ?
Attendez, c'est une vache ou c'est un avion ?
Eh ben c'est là que je suis génial. Nos vaches ont aussi un hublot.
Et puis quoi encore ? Elles ont aussi un train d'atterrissage ?
Pas encore.
Mais pourquoi pas encore ?
Mais d'abord, il faut que je mette les ailes.
Pas con.
Commissaire, je poursuis la perquisition.
Faites. Pour l'instant, nous n'avons que la tête.
Ouais, je serais bouge, je laisserais tomber le pavillon des chèvres.
Des vraies chèvres ?
Presque, parce qu'on les a fait transparentes.
Quel intérêt, les chèvres transparentes ?
Bah, on pourrait les vendre à l'Olympique de Marseille.
Non, mais vous allez avoir des ennuis, là.
Bon, si vous me cherchez, j'appelle les bœufs carottes.
Bœufs carottes, une autre de vos trouvailles, bien sûr.
Non, simplement la police des polices.
Adjointe, continuez plutôt la fouille.
Je crois que j'ai trouvé un bras !
Dans un cochon à véranda ?
Non, dans un canard poubelle.
Excellent, c'est l'une de nos dernières inventions, effectivement.
Une poubelle en forme de canard ?
Non, un canard en forme de conteneur.
Très ingénieux.
Et écologique.
Oh chef, je crois que je tiens un coupable.
Je me fiche de l'enquête, j'aime bien ce monsieur.
C'est gentil.
Et donc, votre prochaine expérience ?
Alors c'est un peu fou, j'aimerais injecter de la cervelle dans les têtes des poulets.
Alors ça, quand les poules auront des dents. Sur une idée originale de Daniel Morin qu'on a creusé ce matin, qui nous a filé généralement l'idée.
J'ai dit ça, c'est un sketch, je le ferai pas moi-même, ça je vais laisser vous
vous-même. Faire à l'antenne.
C'était mon dernier rôle, je crois.
Ah non, c'était très bon. Quand on est bon dans un mauvais rôle, c'est là qu'on voit les grands acteurs.
Merci beaucoup. Merci Roche Dizem d'avoir passé cette heure avec nous. Et donc nous vous conseillons en salle le 17 juillet, Persona non grata de Roche Dizem, co-scénarisé avec Olivier Gors, avec Nicolas Duvauchel, Raphaël Personnage, avec Afsia Herz, avec Nadia Terezevic, avec Anne Charrier, Sarah Pasquier, Fred Ulysse, Frédéric Pierrot, Arsène Mosca, Mathieu Rosé, Gilles Cohen. On les cite
c'est tous sympa de les citer tous en tout
on
cas.
On les cite
merci.
Tous parce qu'ils sont tous très très bons et ouais. On a aimé le film donc ça fait plaisir. Merci Roche Dizem. On va se retrouver demain avec le dessinateur Gossens. C'est la fin de l'émission et donc on va vous laisser le mot de la fin sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
L'Algérie aussi a une très très belle équipe, là. Je les ai regardés hier. Mais bon, je pense que se déroulant en Égypte, je ne sais pas pourquoi.